Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour, bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de ce numéro de Métropolez-vous. Ravi de retrouver les fidèles de cette émission et de saluer ces nouveaux auditeurs. La crise sanitaire et les périodes de confinement, reconfinement que nous vivons en cette année 2020 nous l'a rappelé. Le numérique et ce qu'on appelle les objets connectés tiennent une place grandissante dans nos existences, que ce soit dans notre vie professionnelle où le télétravail s'impose de plus en plus, ou dans notre quotidien avec le développement des achats en ligne et du e-commerce. On parle de transformation numérique, de transition digitale, des expressions dont on a un peu de mal à comprendre ce qu'elles désignent de prime abord. Pourtant, il faut bien s'y faire et il est important que chacun d'entre nous prenne la mesure de tous les bouleversements à l'œuvre dans notre société. Une métropole comme Toulouse est très concernée par ce phénomène et très engagée dans l'information des citoyens grâce à des lieux comme le Quai des Savoirs ou des événements comme Futurapolis dont l'édition 2020 vient de se tenir. C'est pourquoi l'action de Toulouse Métropole pour accompagner la révolution numérique sur son territoire est au cœur de ce numéro. Je l'ai donc intitulé « Transition digitale dans la métropole toulousaine, retour sur Futurapolis 2020 ». Et Toulouse Métropole prend tellement au sérieux la transition digitale qu'elle a un vice-président chargé de cette mission. Il s'appelle Bertrand Serp et il me fait l'amabilité d'être l'invité de cette émission. Bonjour monsieur le vice-président, merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonjour. J'ajoute que vous êtes également conseiller municipal délégué de Toulouse. Alors si je vous demande de donner votre définition de la transition digitale et de ce en quoi elle consiste à Toulouse Métropole, qu'est-ce que vous pouvez répondre à nos auditeurs ?
Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Alors effectivement, lorsqu'on parle de transition digitale ou transition numérique, ça revêt un certain nombre de palettes dans notre société qui peuvent concerner à la fois aujourd'hui les entreprises. Les entreprises sont beaucoup effectivement engagées dans la transition digitale et on le voit bien d'ailleurs récemment avec la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre, mais aussi à travers les services internes des organisations, des collectivités territoriales, parce que bien sûr le passage à tous ces process, à tous ces nouveaux moyens de communication, la transition numérique est importante pour pouvoir poursuivre les réformes que l'on est en train de mettre en place, mais aussi à travers les filières. Nos filières économiques au niveau de la métropole, quand on parle de big data, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, lorsqu'on parle de transformation digitale de nos sociétés, c'est aussi ça. Et puis ça peut se décliner très concrètement avec des exemples de tous les jours dans les mobilités, par exemple. On travaille beaucoup, vous savez, à Toulouse Métropole sur les nouvelles mobilités. Et les nouvelles mobilités, c'est aussi le véhicule autonome. C'est aussi la façon de pouvoir se mouvoir demain de façon différente, connecter aussi avec les mobilités douces, les nouvelles mobilités, ce qu'on appelle les nouvelles mobilités. Et là, le numérique et la transition digitale est éminemment très importante parce qu'elle permet d'avoir accès, notamment pour tous les citoyens, à toutes ces nouvelles formes de transport et de mobilité.
Alors je reviens à votre rôle d'élu chargé de la transition digitale à Toulouse Métropole. Qu'est-ce que c'est ce rôle ? C'est un rôle de conseiller, c'est un rôle d'accompagnateur, c'est un rôle de relais pour les entreprises de la métropole toulousaine ?
Alors ce rôle, effectivement, il est assez transversal et important. Et aujourd'hui, c'est quoi la transition digitale dans une métropole ? C'est le rôle des métropoles, c'est aussi d'accompagner les entreprises dans leur développement. Et à l'occurrence, dans la transition digitale, c'est accompagner les entreprises dans leur transition digitale. Comment faire en sorte qu'aujourd'hui, très concrètement, des PME, des TPE, des artisans, des commerçants, et on voit bien qu'aujourd'hui, ils sont malmenés par cette crise, on peut les aider, non seulement en mettant en place des plateformes, parce que mettre en place une plateforme, c'est à la limite assez courant et pas très difficile. On n'a pas besoin d'être accompagné, ou pas d'ailleurs, puisqu'on peut le faire aussi, puisqu'on l'a eu fait à la métropole. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le rôle de pouvoir travailler ensemble sur des nouvelles solutions et pouvoir aider les plus petits d'entre eux qui n'arrivent pas à peut-être se développer dans ce développement digital. Et ça, c'est un rôle qui était primordial au niveau de la métropole. Et ce rôle, il est en lien aussi avec les services internes de la métropole qui peuvent apporter des solutions très concrètes sur un site internet. Parce que le site internet, parfois, c'est bien plus efficace qu'une plateforme plateforme X ou Y développée à grands frais et à grand prix. Et pour un petit commerçant ou une petite entreprise, c'est important de pouvoir avoir, on parle beaucoup de click and collect, mais d'avoir accès au click and collect aujourd'hui, mais pas que. Et ça fait partie des rôles et des réflexions que l'on tient aujourd'hui avec la métropole. À ce sujet, on va bientôt réunir le MEDEF 31, la CPME 31, ainsi que la Digital Central, qui est le cluster sur le numérique, la Méli Numérique, qui est un acteur incontournable au niveau des TPE et des startups, la French Tech, pour pouvoir discuter ensemble des modalités de mise en place de solutions nouvelles d'accompagnement dans le cadre du développement de la transition digitale pour les entreprises et les petites entreprises.
Oui, parce que si on associe souvent essentiellement la transformation digitale au monde de l'entreprise, on peut dire aussi que l'expression désigne les changements liés à l'intégration de la technologie numérique dans tous les aspects de la société humaine, en fait. Il y a un aspect sociétal très important.
Bien sûr, le travail, par exemple, aujourd'hui est complètement repensé avec les solutions de télétravail que nous avons mis en place depuis peu, depuis la Covid-19, mais qui sont accompagnées par des solutions d'espace de coworking que l'on a développé dans la précédente mandature sur Toulouse Métropole, pas simplement dans le centre de Toulouse, mais aussi dans les faubourgs et dans la périphérie, pour faire le lien justement entre le périurbain et l'urbain et permettre à des collaborateurs qui habitent, par exemple, à Cazères ou dans le Comminges, moi je suis issu du Comminges, qui puissent venir dans des espaces de coworking à l'entrée de Toulouse pour pouvoir travailler, avoir accès bien sûr aux infrastructures, à Internet. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas dans le Comminges, mais c'est pas ce que je voulais dire, mais qui peuvent faciliter leur travail et pouvoir avoir des échanges avec d'autres collaborateurs sans être obligé de venir, par exemple, dans le centre de Toulouse pour rejoindre leur entreprise.
On parle d'applications très concrètes. La crise sanitaire nous l'a montré, par exemple, une application comme Stop Covid. On est en plein dans la transition digitale avec des applications concrètes dans notre vie quotidienne.
Alors, il y a eu deux versions de Stop Covid. Il y a la première version de Stop Covid qui a été, on va dire, un peu difficile, puisque c'était dans un contexte, je rappelle, premier confinement, un espace débattu au Parlement qui était un peu houleux, on ne savait pas trop. Il y avait vraiment les notions de liberticide qui étaient en jeu. Tout ça maintenant est dépassé. La deuxième application qui est sortie, elle a été téléchargée, je crois, par 10 millions d'utilisateurs. J'ai participé, comme les grandes métropoles françaises, au niveau de la commission de numérique de France Urbaine avec le ministre Cédrico, aux usages qu'on pouvait effectivement mettre dans cette application pour la rendre plus attractive, pour que les gens puissent mieux se l'approprier, avec bien sûr des renseignements très, très, très importants sur la façon de pouvoir se soigner, la façon de pouvoir lutter contre ce virus, mais aussi avec ce système de détection des possibles cas positifs à travers l'engagement que porte cette application. Donc aujourd'hui, effectivement, ça peut être des applications, ça peut être des plateformes, ça peut être aussi des nouveaux moyens de travailler. Tout ça, finalement, forme cet environnement digital, numérique, qui aujourd'hui nous paraît essentiel plus que jamais dans la crise sanitaire que nous venons de vivre et que nous sommes en train de vivre.
Alors il y a quelque chose aussi qui s'est beaucoup développé pendant la crise sanitaire, c'est le télétravail, le e-commerce. Ça, ce sont typiquement des axes forts de la transition digitale à l'œuvre dans notre société.
Tout à fait. Alors, le télétravail, c'est bien, ça ne fait pas tout. C'est bien d'avoir du télétravail parce que ça permet effectivement de pouvoir rester chez soi et d'organiser sa vie un peu différemment. Ça, c'est un point positif. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, à un moment ou un autre, pouvoir se rencontrer. Ce n'est pas ce que je veux dire du tout. Il ne faut pas prendre la technologie et le numérique comme ce n'est qu'un outil, finalement. Mais ça permet de révolutionner aussi les façons de travailler, les façons de penser et les façons aussi de pouvoir s'organiser dans sa vie de tous les jours. Ça permet peut-être aux parents de pouvoir aller chercher les enfants à l'école, en travaillant chez soi, ça va être obligé d'aller à son travail régulièrement. Mais n'empêche qu'il ne faut pas oublier que malgré tout, derrière toutes ces technologies, il y a de l'humain. C'est un peu comme dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est aussi un outil, c'est aussi une façon de raisonner, une façon de pouvoir concevoir la vie de demain, de savoir si on veut être soigné par Google, Amazon ou d'autres plateformes, ou si on veut aller voir son médecin dans le coin, dans son quartier. C'est un choix et on doit pouvoir avoir le choix. Et ce choix-là, ça fait partie aussi des conditions de la souveraineté, de ce qu'on appelle la souveraineté du numérique, qui est aujourd'hui une question très importante. Et nous, en tout cas, Toulousains, mais Français en général, on tient notre souveraineté numérique. Ça, c'est un lien aussi pourquoi avec cette application Stop Covid a été un peu controversée, parce qu'il y avait ce fameux problème de nos données, les données qui font partie de notre environnement. Ces données-là, est-ce qu'elles vont partir dans des
justement... C'est ce qui fait très peur, justement,
ce
dans la
peur,
transition digitale.
Est-ce qu'elles vont partir dans des...
À juste titre, me semble-t-il.
Oui,
donc il faut qu'il y ait des garde-fous.
Il faut qu'il y ait des garde-fous. Alors, il faut savoir quand même que l'Europe travaille beaucoup là-dessus. c'est la première fois qu'il y a un commissaire européen à l'économie numérique, au numérique, hein, Thierry Breton, avec des organismes, des commissions pardon, qui travaillent sur ces sujets. Il y a plus de 5 milliards d'euros qui ont été mis à disposition au niveau de l'Europe pour accompagner les territoires, donc les pays et les territoires et les régions et les métropoles qui le souhaitent dans ces transformations digitales. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup de travail.
Alors, la crise sanitaire, pour revenir au télétravail et au e-commerce, semble devoir accélérer le développement de ces aspects de la transition digitale. Est-ce que vous avez le sentiment que sur notre territoire, les commerçants, les chefs d'entreprise qui y sont installés ont compris, intégré ces enjeux et qu'on pourrait rattraper un certain retard dans ce domaine ? La France, jusqu'à maintenant, était plutôt en retard dans le domaine du télétravail par rapport à d'autres pays, notamment les États-Unis.
Oui, je crois qu'on a des marges de progrès, effectivement, par rapport aux États-Unis ou même à l'Asie, hein, il faut le dire. Ceci dit, il ne faut pas non plus occulter. Moi, je ne suis pas, vous savez, le numérique, ça fait quelques années que je travaille dedans. Je suis le porte-parole de la métropole de ces sujets. Mais le numérique, je vous rappelle, c'est un outil. Ça n'empêche que derrière, il y a de l'humain. Donc, il faut trouver le bon mix entre, finalement, comment on peut s'approprier ces nouvelles technologies, comment on peut les utiliser et la crise sanitaire nous démontre bien l'importance aujourd'hui d'avoir ces outils. Et puis, de l'autre côté, l'humain, qu'il ne faut pas non plus occulter, surtout ici, en terre occitane.
Oui, ce sont des outils à disposition. Ça ne veut pas dire qu'il faille les utiliser en permanence, en toute occasion. C'est un peu ça. C'est une question de bon sens et d'équilibre.
C'est une question de bon sens et d'équilibre. Il faut les utiliser à bon escient. Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir des phobies, comme j'entends ici et là, sur, par exemple, bon, on peut parler de la 5G qui va arriver bientôt, parce que les opérateurs ont acheté les licences et qui vont les déployer et que forcément on va pouvoir utiliser la 5G. La 5G, c'est un outil assez intéressant qui va permettre notamment aux entreprises de travailler plus vite, mieux, à la télémédecine de se développer, à permettre dans certaines zones rurales peut-être d'avoir la possibilité d'avoir des flux plus importants pour pouvoir accéder à des vidéos, du travail. Et puis c'est un véritable phénomène d'attractivité. Je pense qu'aujourd'hui, les métropoles qui ne vont pas dans ce sens, qui refusent ces nouvelles technologies, ont tort. Et moi, j'encourage vraiment les entreprises et les entrepreneurs qui veulent venir, puisqu'à Toulouse, il y aura la 5G, de venir s'installer sur notre territoire. Et je rappelle que la 5G, une antenne 5G, est beaucoup moins consommatrice d'énergie qu'aujourd'hui les antennes 4G. Donc, il y a aussi quand même là des progrès en termes d'environnement.
Alors, je pense qu'effectivement, il y a les peurs par rapport à la 5G. Il y a peut-être une autre peur, c'est la peur que ce soit destructeur d'emplois. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette peur-là ?
Non, au contraire, pour moi, la 5G permettra au contraire de développer de nouvelles entreprises et de faire en sorte que le territoire toulousain soit de plus en plus attractif. Vous voyez, c'est un peu l'histoire du véhicule autonome. L'histoire du véhicule autonome, c'est de dire aujourd'hui, vous avez un petit véhicule électrique qui est dans le centre de Toulouse, qui a beaucoup de succès, qui est développé par Tisséo, la navette, et où il y a un conducteur. Et si demain, ce véhicule devient autonome, comme il l'est déjà maintenant sur le site de l'Oncopole, pardon, il a été expérimenté sur Francazal, maintenant c'est le site de l'Oncopole, et il fonctionne entre un point A et un point B, il n'y a pas de chauffeur. Alors, les gens vont vous dire, mais ça va finalement enlever un emploi. Pas du tout, parce que le chauffeur qui avant était chauffeur, peut-être qu'il a trouvé une autre fonction dans cette société-là. Il est plutôt conseiller, ou il conseille les gens, il leur explique comment vous allez rentrer dans une véhicule autonome, il va se passer comme ça, ne craignez rien, et puis c'est un ordinateur qui va piloter, c'est les données qui vont... Bon, vous voyez, donc il y a une façon de réorganiser le travail qui, à mon avis, supplée à cette fausse bonne idée hein, de se dire, c'est pas une bonne idée, de se dire, mais ça va de créer des emplois à moins.
C'est toujours la balance lorsqu'il y a une évolution entre les emplois détruits et les emplois créés. Il faut qu'elle soit positive dans le bon sens, évidemment. Alors, vous l'avez évoqué un petit peu en parlant de la 5G, il y a des aspects environnementaux de la transition digitale. Récemment, il y a eu l'événement Futurapolis dont je parlais au début de cette émission. Il a eu lieu du 12 au 14 novembre à Toulouse, malgré la crise sanitaire et le reconfinement, en digital justement. Peut-être que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste ce rendez-vous et surtout le thème qui avait été retenu cette année.
Alors, ce rendez-vous est annuel, organisé par Le Point, parle en général d'innovation, les innovations technologiques, les innovations en matière de santé, en matière de transport, en matière d'emploi. Bon, et spécialement cette année, c'était une formule un petit peu différente, on va dire, les 100% digitales, et qui était consacrée à la planète. Donc, on a beaucoup parlé, effectivement, de répercussions sur de la transition écologique et aussi de la transition numérique, parce qu'il ne faut pas opposer transition écologique et transition numérique.
Vous allez vous poser la question.
C'est un vrai faux débat, en fait.
Parce que pour beaucoup de gens, c'est antinomique.
Pas du tout. Mais ne serait-ce que par exemple, dans le domaine des mobilités, comme je l'expliquais tout à l'heure, le véhicule autonome permettra, effectivement, de consommer beaucoup moins d'énergie, puisque c'est un véhicule qui fonctionne de façon façon autonome, électrique, parfois photovoltaïque. Donc du coup, le numérique, il est partout. Donc, et il permet justement ces nouvelles technologies et ces nouveaux process qui permettent de faire des économies d'énergie notamment. Donc il ne faut pas opposer du tout le numérique et l'écologique. Au contraire, nous, notre ambition au niveau de la métropole, c'est l'ambition que nous avons avec François Chollet, qui est en charge, le VP en charge notamment de tout ce qui est transition digitale, écologique. Pardon. Et moi-même, la transition digitale, de travailler ensemble sur ces sujets. On peut parler du logement, puisque c'est mon autre casquette en tant que premier conseiller chargé du logement à Toulouse. C'est le logement aussi, avec la rénovation, les rénovations énergétiques des logements et le numérique qui intervient aussi, notamment maintenant, aujourd'hui, pour les opérateurs, puisque je suis aussi président de Toulouse Métropole Habitat, le bailleur social toulousain, de pouvoir avoir des tablettes, de pouvoir avoir des moyens numériques qui permettent de relever quand vous faites un état des lieux, quand il y a des choses qui ne vont pas, qui sont cassées dans les immeubles, pouvoir tout de suite envoyer les ordres aux collaborateurs qui vont arranger, nettoyer. Vous voyez. Tout ça va plus vite, tout ça va mieux. Et le numérique aide finalement à cette transition écologique aussi pour le respect de l'environnement.
Et il aide aussi dans le domaine des mobilités. Oui. Moins se déplacer, plus travailler chez soi, plus travailler dans ces fameux tiers-lieux qui sont entre le domicile et l'entreprise pour laquelle on travaille. Moins de déplacements, c'est moins de pollution, c'est moins d'empreintes carbone.
Exactement, vous avez tout dit là-dessus. Donc, les tiers-lieux sont là pour accueillir les personnes qui souhaitent vraiment travailler sans prendre forcément leur voiture pour aller dans le centre-ville de Toulouse, sans créer des embouteillages parce que le centre de Toulouse fait que c'est un centre ancien qui est comme il est, donc on ne peut pas
difficile casser, d'accès,
difficile d'accès
difficile de se garer.
Même si on a fait beaucoup d'efforts, ça permet aussi d'avoir moins de pollution, moins de CO2. Donc, tout ça va dans le bon sens. Donc, vraiment, je crois qu'on doit vraiment retenir que on doit travailler ensemble. La transition écologique et la transition numérique sont deux dossiers qui sont à traiter ensemble.
Alors Futurapolis, même s'il a eu lieu en digital, il y a quand même eu des conférences, des tables rondes avec des intervenants. Quels étaient les thèmes cette année au-delà du thème général Futurapolis Planète? Alors je crois qu'il y avait, entre autres sous-thèmes si je puis dire, il y avait le nucléaire.
Oui.
Là aussi, les gens vont dire quoi, le nucléaire et l'environnement? Si, quand même.
Oui, alors le nucléaire, c'est un peu comme le numérique, le nucléaire. Enfin bon, c'est pas la même proportion, mais on a peur du nucléaire. N'empêche que si aujourd'hui on n'avait pas de nucléaire, on pourrait pas tout simplement avoir tous les outils numériques qui nous permettent aussi aujourd'hui, parce que c'est l'électricité et deux tiers de l'électricité française est pourvue par le nucléaire. Donc il faut pas voir le nucléaire comme quelque chose de très négatif. Alors évidemment, il y a des centrales qui ont fermé, il y a des centrales qui sont à rénover, il y a des principes de précaution qui sont bien sûr à respecter. C'est comme dans le numérique, c'est comme dans la 5G. Aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui a prouvé que nos centrales nucléaires en France, elles étaient en danger. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'un accident. Effectivement, les accidents, ça arrive tous les jours.
Le fameux risque zéro n'existe pas. On peut le répéter, il faut le comprendre.
Il faut le comprendre. Et aujourd'hui, si on n'avait pas de nucléaire, je ne sais pas trop comment on ferait parce que les autres énergies alternatives, les énergies dites douces, sont compliquées quand même à mettre en place, même les éoliennes. Ça fonctionne.
Surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est que le nucléaire est non émetteur de CO2. C'est la seule énergie qui est non émettrice par rapport à des centrales à charbon.
Alors. Je ne l'ai pas dit parce que c'est tellement évident pour moi. C'est vrai que l'industrie du charbon, pour moi, c'est un peu le 19e siècle. Quoi. C'est le 20e siècle. Mais on est au 21e siècle. Effectivement, moi, je suis né... pour moi, le nucléaire a toujours fait partie de mon environnement. Donc, effectivement, il n'émet pas de CO2.
Mais je pense aussi pour la sécurisation des centrales nucléaires, évidemment, le digital, le numérique a un grand rôle à jouer. Le développement du numérique a un grand rôle à jouer.
Bien sûr.
Je pense que c'était ça qui était au centre des discussions.
Bien sûr, tout à fait.
Entre autres, alors il faut dire qu'à Futurapolis, contrairement à ce que pourraient penser les gens, il n'y a pas que des scientifiques et des informaticiens qui interviennent. Il y a des journalistes, il y a des sociologues, il y a des urbanistes, il y a des médecins aussi, comme François Chollet, et des élus. On prend en compte tous les aspects numériques dans nos sociétés. C'était ça aussi qui était au centre des discussions.
Oui, tout à fait. Et puis, il y a toute une partie aussi consacrée aux entreprises avec ce qu'on appelle la factory. Alors, c'est dommage que cette année, cette édition, malheureusement, a été en digital. Donc, ils n'ont pas pu faire toutes les tables rondes.
Mais il y avait beaucoup de... Tous les intervenants prévus n'ont pas pu venir, bien sûr.
Mais moi-même, je n'ai pas pu intervenir parce qu'il était compliqué de pouvoir avoir tout le monde. Mais il y a forcément des questionnements à avoir sur ces sujets de digital et d'écologie. Et bien en deçà de repenser, finalement, presque philosophique. de repenser quelle sera notre vie demain, parce qu'on parle beaucoup de l'après, mais l'après c'est quoi? C'est beaucoup de choses et peu de choses aussi, et c'est comment on va se comporter, parce que cette pandémie a eu lieu, qui nous dit qu'il n'y aura pas, je ne veux pas être pessimiste, et je ne suis pas du tout dans ce cas-là, au contraire, mais qui me dit qu'il n'y aurait pas d'autres accidents de ceci, ni il y en a eu par la passé, il y en aura peut-être dans l'avenir, donc on doit vraiment avoir une réflexion plus globale et générale, en dehors du numérique, en dehors sur les comportements que nous devons aujourd'hui avoir face aux populations, nous les élus, comment on peut anticiper ou pas.
Et amortir les crises, si elles surviennent. Les anticiper et les amortir. Amortir les effets, en tout cas.
Les anticiper, c'est-à-dire avoir aussi des moyens pour pouvoir, voilà, si elles arrivent, à un moment ou à l'autre, ou par ce qu'on a fait avec le plan de relance métropolitain, les 95 millions d'euros qu'on a mis pour relancer quelque part l'économie et l'innovation et faire en sorte de développer ces tiers-lieux et la possibilité que la transition digitale puisse s'exprimer pour permettre aux PME, TPE et aux artisans, aux petites entreprises de pouvoir continuer quelque part aussi leur activité si elles le souhaitaient, mais aussi à travers nos comportements. On le disait tout à l'heure, se laver les mains plus fréquemment, faire attention, peut-être respecter quelque part aussi les distances un petit peu sanitaires. Bon, voilà, c'est vrai qu'ici, on est dans le sud, on aime bien s'embrasser. Moi, ça fait 8 mois, 9 mois que je n'ai pas fait de bise.
Comme nous tous. Hein.
Comme vous tous. Donc, c'est ça aussi qui nous manque, surtout nous autres qui sommes du sud. Voilà, donc il faudra réfléchir à tout ça.
Alors, au regard des discussions, j'aurais un futur à police, mais c'est plus général que ça, des discussions, des pistes à explorer pour la sauvegarde de notre planète grâce à la transformation numérique et la transition digitale, quels sont les atouts d'une métropole comme Toulouse pour faire face aux enjeux et aux défis à relever dans un avenir proche? Et il y a le changement climatique aussi. On a beaucoup de start-up à Toulouse, on a beaucoup de labos de recherche et on est plutôt bien doté, voire mieux doté que d'autres métropoles dans ce contexte.
Toulouse, je le dis souvent, c'est quand même, ça a été une des capitales européennes d'innovation, c'est pas pour rien. Donc on a expérimenté, on parle des mobilités, mais il n'y a pas que les mobilités, il y a aussi des tas de domaines où justement, à l'aide de notre écosystème de start-up qui est assez puissant sur Toulouse, on a plus de 200 start-up donc, qui sont là à la fois pour développer des usages, pour permettre de développer des innovations. On a le programme Smart City qu'on a mis en place sur 2015-2020. Maintenant, on est en train de réfléchir sur notre devenir, sur le vocable ville durable et innovante, ça dit bien ce que c'est, comment demain, ben, on parlait de cette ville, comment demain elle va se développer, comment les transports vont pouvoir s'organiser, comment les entreprises pourront pouvoir se développer sur le territoire toulousain, l'attractivité du territoire. On parlait tout à l'heure de la 5G, c'est un facteur d'attractivité pour nos entreprises parce que sur le sol toulousain, elles pourront expérimenter, elles pourront effectivement se développer, elles seront accompagnées par la métropole et par la région aussi, par les collectivités. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de laboratoires de recherche, d'écoles d'ingénieurs. Tout ça n'est pas nouveau. Tout ça a été amplifié avec les politiques qu'on a portées pendant ces dernières années.
On a des associations comme le milieu numérique aussi, très important.
Et j'allais y venir, et accompagner aussi avec les citoyens. Et cette façon de pouvoir aussi avoir le lien avec les citoyens, c'est avec des associations comme la Mêlée, que l'on accompagne depuis maintenant 20 ans, puisque la Mêlée a 20 ans. Donc, quelles que soient les politiques qui ont été menées, les différentes gouvernances, nous, on a toujours accompagné cette association qui, aujourd'hui, est notre vecteur de communication à travers tous les publics, à la fois les jeunes publics, à la fois les publics, on va dire, plus âgés, et puis les seniors aussi. Donc avec ce dispositif qu'on souhaite renforcer, parce que vous savez qu'on a un partenariat avec la Mêlée numérique, sur l'inclusion numérique, parce qu'aujourd'hui c'est bien facile et c'est bien beau d'avoir des discours comme on est en train d'avoir aujourd'hui sur la transformation digitale, le numérique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 13 millions de Français qui sont encore sous le couvert d'électronisme, ce qu'on appelle l'électronisme, donc qui n'ont pas facilement accès à Internet, et c'est quand même un peu le départ, ou qui ne savent pas comment se comporter face à une tablette ou un smartphone tout simplement. Alors là, il y a encore un travail. Le gouvernement a mis en place un certain nombre d'actions dans le cadre du plan de relance, notamment avec ce qu'on appelle la mise en place de conseillers numériques, pour ce nom. C'est Trico qui a mis en place, qui va se décliner sur l'ensemble des territoires, avec 250 millions sur la France entière pour aider au développement avec les collectivités territoriales. C'est quoi ces personnes-là? Ce sont des personnes qui vont être à vos côtés, ou peut-être à côté des personnes âgées, peut-être apporter des personnes en difficulté dans les quartiers prioritaires de la ville, pour expliquer comment fonctionne le numérique, quels sont les avantages du numérique, pour aider à cette inclusion numérique qui est si importante aujourd'hui d'un point de vue sociétal sur nos territoires.
Eh bien, nous allons terminer cette émission sur ces augures. Un grand merci d'avoir été notre invité Bertrand Serpe et d'avoir été notre guide dans ce monde parfois compliqué de la transition digitale. On a pu constater que de nombreuses mutations sont déjà en cours et il y en aura encore beaucoup d'autres dans les années à venir. Mieux vaut donc se tenir informé pour ne pas subir les changements générés par le numérique dans nos vies personnelles et professionnelles. Si vous avez raté les visioconférences de Futurapolis 2020, de Futurapolis Planète en live, sachez que vous avez droit à une séance de rattrapage grâce au replay que vous pouvez trouver et regarder sur le site www.futurapolis.com. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupré, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropole et vous. Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.